à toutes et à tous. Vous êtes bien avec les Neveux de René, une émission consacrée à la découverte de la philosophie. Et l'émission d'aujourd'hui sera très spéciale, puisque j'ai l'honneur et le grand plaisir d'inviter François Vezin, qui fut mon professeur de philosophie au lycée Balzac à Paris, et qui est en quelque sorte, on peut dire, mon maître et la personne à qui je dois mon intérêt pour la philosophie, bien que je ne sois pas moi-même philosophe. Donc nous sommes dans un entretien à deux. Mes amis Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier et Nicolas Lemoine ne sont pas présents, mais on les salue et on pense très fort à eux. Et spécialement à Nicolas Lemoine et à son petit Émile qui vient d'arriver. Voilà, on lui souhaite une bonne arrivée dans la vie et dans le chemin de vie. Alors, bonjour François Vezin. Bonjour. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, dire ce que vous avez fait, votre parcours professionnel et philosophique ?
Je suis né à Paris, j'ai 81 ans, j'ai été professeur de philosophie. Je le suis encore, même si administrativement je suis à la retraite. J'ai été l'élève de Jean Beaufret et auprès de Jean Beaufret, j'ai appris à lire Heidegger, à l'étudier, à essayer de le comprendre. Et j'ai traduit en français plusieurs textes de Heidegger, principalement Être et temps.
D'accord. Et vous pouvez nous dire deux mots sur ce parcours de... Vous avez été plus attiré par la pédagogie et l'enseignement que par le travail universitaire de la philosophie.
La philosophie, ça s'enseigne. La philosophie, il n'y a pas grand-chose à en faire, mais à coup sûr, ça s'enseigne. Par conséquent, l'enseignement philosophique est quelque chose de fécond.
D'accord. Et est-ce que ça veut dire que...
Et donc, j'ai beaucoup aimé mon métier.
Oui. Et des philosophes qui n'enseigneraient pas, ce ne seraient donc pas des philosophes. Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Descartes, dont nous allons reparler, est-ce que lui, il n'était pas porté sur l'enseignement ?
Non, Descartes n'a jamais... Les grands cartésiens, aucun des grands cartésiens n'ont été philosophes, c'est-à-dire ni Descartes, ni Pascal...
N'ont été enseignés.
Ni Pascal, ni Leibniz n'ont été professeurs de philosophie à aucun moment de leur vie, alors que d'autres philosophes, comme Kant ou Hegel, l'ont été.
Alors, dans cette émission-là, je vais vous proposer qu'on parle du rapport entre un musicien que vous affectionnez, que vous avez beaucoup étudié, qui est Rameau.
Jean-Philippe Rameau,
oui. Et Descartes, et René Descartes. Mais avant ça, peut-être parler de l'actualité de la philosophie. Alors, il n'y a pas d'actualité de la philosophie, mais il y a un livre de Bernard Sicher qui s'appelle « Aristote au soleil de l'être », qui est sorti, et il me semble que ce livre a attiré votre attention. Vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, je suis très content que ce livre vienne de paraître. Ce livre, c'est le prolongement de tout un travail de Bernard Sicher, l'essentiel étant la traduction, la nouvelle traduction qu'il a faite de la métaphysique d'Aristote. Donc, il y a quelques années, Bernard Sicher a publié en deux volumes dans la collection Agora Pocket une traduction assez audacieuse et très, très nouvelle de la métaphysique d'Aristote. Donc, ça a été pour lui un grand travail. Et alors, l'édition comporte une introduction, elle comporte des notes, mais elle se prolonge, peut-on dire, par et dans le livre qui vient de paraître. Qui est une somme de réflexions de Bernard Sicher sur Aristote, engendrée par tout ce travail qu'il a fait depuis une dizaine d'années sur Aristote.
Donc vous voulez dire qu'actuellement, on continue à travailler l'œuvre d'Aristote, bien qu'elle date de plus de 2000 ans,
ou
2500 ans. On est encore en train de découvrir des choses, c'est ça ?
Oui, l'intérêt pour Aristote ne faiblit pas. Donc Aristote a été lu, étudié, enseigné au cours des siècles. Alors qu'on pourrait faire un historique de toutes les phases de la lecture et toutes les interprétations qui ont été données au cours de l'histoire d'Aristote. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment la façon dont Aristote a été compris, traduit au Moyen Âge. Mais je pense que c'est une vraie chance pour Aristote d'avoir trouvé au XXe siècle, en la personne de Martin Heidegger, un lecteur d'une fraîcheur extraordinaire Et à la lumière du travail de Heidegger, des cours qu'il a consacrés à Aristote, une lecture vraiment nouvelle d'Aristote s'est engagée. Alors, en France, j'ai eu la chance, par exemple, de suivre des cours sur Aristote de Jean Beaufray, qui m'ont révélé énormément de choses. Bernard Sicher n'a pas été, à pour m'en parler, élève de Jean Beaufray, mais le travail et les travaux qu'il a publiés donc ces temps derniers se situent quand même dans le sillage du travail de Heidegger et de Beaufray sur Aristote.
Et ce travail-là, il a été rendu nécessaire parce que Aristote était en quelque sorte tombé en désuétude. Est-ce que l'expression est correcte? Est-ce que après la physique moderne, galiléenne, cartésienne, est-ce que on n'a pas eu tendance à mettre Aristote au placard? Et ce serait donc par l'intermédiaire de Heidegger qui referait surface, ou est-ce que c'est un raccourci de dire ça?
Non, un grand historien des sciences comme Alexandre Coiré disait de la physique d'Aristote qu'elle était irrémédiablement périmée.
Oui.
Bon, alors aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Heidegger a réagi contre cela et a montré en quoi la physique d'Aristote et la métaphysique d'Aristote, car les deux choses ne font qu'un, restaient parfaitement audible et intéressante et stimulante pour la pensée.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la différence entre physique et métaphysique? Parce que le mot métaphysique est un mot d'éditeur. Hein,
Le titre métaphysique sous lequel est connu un ensemble d'écrits d'Aristote, ce titre n'est pas d'Aristote. Les écrits de physique et les écrits connus historiquement sous le nom de métaphysique sont de même nature et sont très proches. Donc la distinction entre les deux est surtout une distinction de tomaison à l'intérieur d'une édition.
Oui. Mais alors que de nos jours, on pense que l'opposition entre physique et métaphysique, elle est radicale.
Oui, voilà. Historiquement, on a réinterprété le mot métaphysique dans le sens de transphysique. Et donc, le mot métaphysique a pris historiquement et philosophiquement un sens nouveau au cours de l'histoire. Mais ça, c'est des choses qui se sont produites bien longtemps après la mort d'Aristote.
Et est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, on est plus vraiment capable d'entendre ce que signifie métaphysique? Parce qu'on pense tout de suite théorie fumeuse, choses dans le brouillard. Enfin, le cliché de la métaphysique, c'est ça.
Oui, bon, la métaphysique a été critiquée et discréditée. Bon, Voltaire la traîne dans la boue et Auguste Comte la critique et d'une certaine manière la rejette. Mais ça reste un mot philosophique très important, d'une grande portée.
D'accord. Alors, le deuxième livre que vous nous avez présenté hier lors d'une rencontre dans un café, c'était l'anthologie réalisée par Guillaume Badoil et Étienne Gilson.
Pas Étienne Gilson.
N'importe quoi. Monsieur Alami, hein, c'est
oui,
ça.
Ahmed Alami.
Ce qu'on appelle la philosophie médiévale de langue arabe.
Oui.
Donc ça aussi, c'est un. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur comment cette philosophie-là a été connue en Europe et en France, et vous-même, quel a été le rapport avec ce type d'œuvre philosophique? Je pense que vous avez été très peu confronté à ces
pensées-là. Il y aurait énormément de choses à dire à ce sujet. Je ne peux que me limiter qu'à quelques indications. Il s'est passé quelque chose de très important entre Aristote et les Arabes. Bon, les écrits d'Aristote, après la mort d'Aristote, ont fait tout un voyage, ont pour certains d'entre eux disparu pendant longtemps. En Europe, pendant plus de 10 siècles, on ne connaissait que les écrits de logique qui continuaient d'être enseignés. Les autres écrits étaient perdus. Ces écrits existaient. Ils avaient été traduits en syriaque, de syriaque traduits en arabe. Et il se trouve que vers le 9e, 10e, 11e siècle, ces écrits ont suscité un énorme intérêt dans le monde arabe et ont engendré tout un travail de réflexion avec quelques grands noms et quelques grandes œuvres. Donc c'est en ce sens que je dis, il s'est passé quelque chose entre les Arabes et Aristote. Et puis alors, Avicenne, le plus important d'entre eux, Avicenne au XIe siècle, s'inspire d'Aristote, puisque certains de ses traités reprennent purement et simplement les titres des traités d'Aristote. On n'avait pas le souci d'originalité qu'on a aujourd'hui, où on ne peut pas se permettre de réutiliser un titre qui a déjà été employé. Et alors, ces œuvres d'Avicenne et d'un certain nombre d'autres auteurs ont été connues dans l'Europe chrétienne et ont suscité une grande curiosité, ont suscité des commentaires, des discussions. Et tout cela a engendré ce qu'on appelle la scolastique. C'est-à-dire la philosophie scolastique telle qu'elle se développe en Europe et à partir de l'Université de Paris, notamment à partir du XIIIe siècle, est un prolongement en territoire chrétien de la philosophie médiévale de langue arabe. Et par exemple, durant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, jusqu'au début du XVIIe siècle, on ne lisait pas Aristote sans les commentaires d'Averroès. C'est-à-dire qu'il y avait sur les manuscrits ou plus tard sur les livres imprimés, il y avait sur la même page le texte d'Aristote et le commentaire d'Averroès. On ne les dissociait pas.
D'accord. Et vous avez vous-même en votre possession un de ces livres?
J'ai trouvé un jour chez un bouquiniste une édition d'Aristote publiée à Venise au XVIe siècle et où on voit ça.
Bon, c'est très intéressant. On va pouvoir aborder donc le texte central, le thème central de cette émission. Alors, François Vezin, vous êtes un grand adepte de ce que vous appelez le samizdat, hein, donc vous écrivez vous-même des petits textes que vous envoyez à vos amis et anciens élèves dont je fais partie. Alors, je vais peut-être pour les auditeurs lire pas tout le texte parce que ce serait trop long, bien que le texte fasse que 2 pages, mais il ne s'agit pas de tout le lire. Mais je vais peut-être en lire les 2 premiers paragraphes pour commencer. Alors, le titre du texte s'appelle « L'enfance retrouvée à volonté ». Fraîcheur et élégance, c'est une bonne interprétation des suites d'orchestre de Daphnis et Aiglé que donne la Capella Savaria, dirigée par Marie-Thérèse Smith. L'essentiel y est, la douceur et la gaieté des danses villageoises qui ont subjugué Rameau dans son enfance est bien là. On ne sait rien, dit-on, des 50 premières années de sa vie. Dans l'éloge de M. Rameau qu'il a prononcé 1 an après sa mort, Michel de Chabanon déclare même que « toute la première partie de sa vie est absolument inconnue. Il n'en rapporte aucune particularité à ses amis, même à Madame Rameau, sa femme. À défaut d'anecdotes à récolter, nous pouvons au moins écouter sa musique. Il est temps qu'elle nous révèle l'enfance de Rameau, l'éveil musical du grand homme qui jamais ne pourra musiquer sans que reviennent à lui des musettes impossibles à oublier. Ayant un père organiste, il se pourrait bien qu'il ait été quelque peu saturé de musique d'église. Avec la mémoire musicale qu'il avait, il est évident que dès l'âge de 10 ans, il savait par cœur tous les cantiques, toutes les hymnes et proses de la liturgie. Cependant, la beauté de cette musique-là n'avait pour lui rien d'inattendu. Mais entendre, au hasard d'une fête de village, un vielleux qui avait un tempo juste, l'a atteint en plein cœur, l'a éveillé. Un jour, il a tremblé de merveille, Ronsard, et il a gardé cela en lui toute sa vie. Le génie, dit Baudelaire, n'est que l'enfance retrouvée à volonté. Ce trésor-là n'était qu'à lui. Secretum meum mihi, mon secret est à moi. Le philosophe est un grand enfant.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors François Vezin, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous dire qui est Rameau et d'où vient votre intérêt et passion pour Rameau et ce que vous avez écrit, comment ça se lie à cet intérêt? Pourquoi vouloir parler de l'enfance de Rameau?
Alors Jean-Philippe Rameau, c'est un des très grands musiciens français, c'est le plus grand musicien français du XVIIIe siècle. Il est surtout connu par ses opéras et les ballets qu'il a écrits à partir de l'âge de 50 ans en grand nombre. Il a été un peu oublié tout au long du 19e siècle, puis on a commencé à le redécouvrir au début du 20e siècle, et depuis une trentaine d'années, on s'intéresse beaucoup à lui et on, on joue beaucoup plus qu'avant ces opéras et on connaît beaucoup mieux sa musique. Et le claveciniste Scott Ross, par exemple, a fait des enregistrements merveilleux de ses œuvres pour clavier. Alors, ce musicien m'intéresse, bon, d'abord parce qu'il est admirable. C'est un musicien largement aussi important que Jean-Sébastien Bach, qui est exactement son contemporain. Mais en tant que professeur de philosophie, je suis très profondément intrigué par le fait qu'il y a un lien essentiel entre Jean-Philippe Rameau et Descartes. On peut dire de Rameau qu'il est un musicien cartésien. Bon, l'expression semble un peu bizarre, mais elle veut dire que Rameau, bon, alors on sait très mal, on sait très peu de choses sur la jeunesse et la première partie de la vie de Rameau. Bon, M. Chabanon exagère peut-être un peu quand il dit qu'on ne sait rien de lui avant l'âge de 50
ans.
Ni même
sa femme.
Oui, oui. Bon, il exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a un mystère sur les 50 premières années de la vie de Rameau avant qu'il devienne un personnage public, alors là, très célèbre et qu'il produise des chefs-d'œuvre très rapidement en grande série. Mais parmi les choses qu'on sait de sa vie antérieure, c'est qu'il a lu Rameau et que cette lecture a beaucoup compté pour lui.
Il a lu Descartes, vous
voulez dire. Il a lu Descartes, oui, il a lu Descartes, oui, il a lu Descartes, et cette lecture a beaucoup compté pour lui. Alors, elle l'a poussé à faire des recherches dans le domaine de la théorie de la musique. Donc, il a publié en 1722 un traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels, dont le style peut être qualifié de cartésien, à condition de ne pas prendre l'adjectif cartésien dans un sens trop scolaire.
Oui, quand on dit les Français sont cartésiens.
Voilà, oui, non, c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est pas ce cliché-là. C'est pas ce cliché-là. Non, non, non. Alors, Descartes est le seul philosophe qui a lu Rameau. Bon, apparemment, il ne connaît pas Pascal, ou en tout cas, il n'en a jamais parlé. Il a lu Descartes et il y a quelque chose qui s'est produit en lui en lisant Descartes et qui a fécondé sa pensée et qui l'a aidé à trouver son originalité.
Alors pour nos auditeurs, je propose une petite pause de musicale. On va écouter justement la musique de Jean-Philippe Rameau. Et vous nous avez proposé un chœur qui s'appelle Laboravi Clamens,
oui, oui.
Et qui est extrait de...
C'est une fugue sur un verset d'un psaume.
D'accord. On écoute la fugue.
Donc le texte est en latin.
Ouais. On écoute la fugue.
Thank you.
Chemin de pensée sur RCF.
Donc vous êtes bien avec Chemin de pensée, vous êtes avec Nazim Fattès et François Vezin. Nous continuons cette discussion autour de Rameau et Descartes. Alors nous avons écouté le chœur Laboravi Clamans, donc cette fugue. Alors François Vezin, la première chose que je voudrais vous dire, bon, c'est magnifique hein, déjà, vous êtes vous-même chanteur et je pense que vous avez sans doute chanté cette fugue.
Non, j'ai pas eu l'occasion de la chanter, je le regrette.
Mais la première chose qui vient à l'esprit, c'est rien n'est moins cartésien que cela. On n'entend pas Descartes
oui,
là-dedans.
Non, non, il ne faut pas chercher de correspondance directe entre Descartes et... Non. Je pense que pour préciser ce dont nous parlons, il faut citer la phrase essentielle. Donc dans un essai qu'il a publié en 1749, « La démonstration du principe de l'harmonie servant de base à tout l'art musical théorique et pratique, qui est une espèce de suite ajoutée à son traité de l'harmonie de 1722, Rameau parle de lui-même... Et voici ce qu'il en dit. Éclairé par la méthode de Descartes que j'avais heureusement lue et dont j'avais été frappé, je commençais par descendre en moi-même, j'essayais des chants à peu près comme un enfant qui s'exercerait à chanter, j'examinais ce qui se passait dans mon esprit et dans mon organe. Donc, éclairé par la méthode de Descartes que j'avais heureusement lue, heureusement. Bon, la lecture de Descartes a été un bonheur dans la vie de Rameau. Alors, on sait si peu de choses sur les premières décennies de la vie de Rameau, on sait au moins cela.
D'accord. Et quand il dit...
Et c'est un cas unique, c'est-à-dire qu'un grand musicien ait été à ce point atteint par la philosophie et par un philosophe, je ne connais pas d'autre exemple de ça.
D'accord. Et quand il dit « descendre en moi-même », c'est ce mouvement-là qui est un mouvement éminemment cartésien.
Oui, absolument, absolument.
C'est-à-dire que lorsque Descartes, dans les méditations métaphysiques, fait abstraction du monde, il descend lui-même.
Je dis souvent « cartésien dans l'âme », Rameau cherche la vérité, musicien dans l'âme, il la cherche dans l'harmonie.
Oui. Alors, mais là, l'harmonie, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer l'harmonie, c'est la consonance des accords quand
Alors, c'est pas simplement... L'harmonie... Bon, le mot harmonie est très riche de sens. Je suis obligé de me limiter à des indications succinctes. Bon, l'harmonie, c'est pas simplement la science des accords, c'est-à-dire ce qui se passe quand on joue simultanément plusieurs notes et qu'il peut y avoir consonance ou dissonance.
Oui.
Mais c'est la base musicale sur laquelle repose un morceau. C'est-à-dire, toute harmonie est de la mélodie en puissance.
Et ce qui nous est indiqué par cette justement harmonie entre Rameau et Descartes, est-ce qu'on ne peut pas penser par là que finalement chaque être humain dans sa propre vie pourrait faire le même mouvement que ce qui a fait Rameau pour descendre en lui-même en suivant la méthode
de
Descartes.
Bien sûr. Quiconque veut sérieusement devenir philosophe doit opérer une fois en sa vie un retour sur lui-même et s'efforcer de mettre à bas tout ce qu'il avait jusque-là tenu pour des sciences en vue de reconstruire celle-ci.
Oui.
Alors, Rameau a lu ça dans Descartes et il a dit bon, c'est ça qu'il faut que je fasse en tant que musicien.
D'accord.
C'est ça. Il a mis ses pas dans Descartes, mais. Oui. Non pas en devenant un épigone philosophique de Descartes, mais c'est-à-dire la lecture de Descartes ne l'a pas éloigné de la musique.
Ma question plus précisément, c'est est-ce que vous pensez que, hormis les génies qui peuvent révéler un talent exceptionnel, est-ce que quelqu'un qui, dans son quotidien, pourrait faire aussi ce mouvement-là pour se révéler à lui-même?
Bien sûr, oui.
Vous pensez que c'est
possible? Oui, c'est possible. L'utilité de la philosophie que Descartes défend, mais qui n'est pas évidente du tout aux yeux du grand nombre. Bon, une utilité possible et envisageable de la philosophie, c'est qu'elle peut aider quelqu'un à trouver son originalité.
À trouver son originalité, oui, ça c'est ce que vous dites.
Et alors je pense que Rameau est une excellente illustration de cela.
Bon, bah très bien. Mais écoutez, je propose aux auditeurs de nous retrouver lors de l'émission prochaine pour continuer cette discussion autour de Descartes et Rameau, donc on a à peine abordé, mais déjà on a des indications sérieuses pour la façon dont on peut poursuivre ce travail. Et puis surtout, merci de nous avoir éclairés, de nous montrer que la philosophie, ce n'est pas un domaine clos sur lui-même, mais qui rayonne différents endroits. Alors on pourra continuer à discuter sur la façon dont Descartes rayonne dans notre temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'émission s'appelle « Les neveux de René ». Voilà, merci François Vezin, et puis merci aux auditrices et aux auditeurs, et puis rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine émission.